France Inter.
Nous allons doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France.
Plus aucun bidonville. Cet engagement, c'est celui de Jacques Chaban-Delmas, en février 1972. Mais le Premier ministre de Pompidou est loin d'être le seul à avoir promis, au fil des années, la disparition des toits de tôle et des baraques entassées à la périphérie des grandes villes. Les lieux, les campements, les squats ont changé, les nationalités aussi. Mais aujourd'hui, plus de 11 000 personnes s'entassent toujours au bord des routes, dans des terrains boueux. Ce sont très majoritairement des citoyens européens, souvent d'origine roumaine ou bulgare, en situation régulière, mais qui doivent, après 3 mois de présence, justifier d'un emploi et qui comptent, parmi eux, près de 4000 enfants et adolescents. L'horizon que visent l'État et les collectivités pour résorber les bidonvilles, c'est désormais 2035, avec 10 ans pour faire disparaître ces poches de pauvreté et une enveloppe annuelle passée de 4 à 8 millions d'euros. Elle doit permettre de soutenir les départements et les initiatives locales en proposant des appartements et des emplois à ces familles en marge du marché du travail. Des actions financées à 75% par l'État, à 15% par les collectivités territoriales et à 10% par des fonds privés ou européens. Mais le résultat reste très contrasté, avec en moyenne, à l'échelle nationale, moins d'une personne sur 10 qui finit par emménager dans un logement pérenne.
La difficulté qu'on rencontre nous, c'est l'absence de débouchés. On se heurte à des vrais blocages de l'accès à l'emploi. Ils ne sont pas très bienvenus la plupart du temps, les gens qu'on accompagne. Il y a tout de suite un regard, pas suspicieux, mais en tout cas un regard de méfiance, de mépris peut-être.
C'est à Montpellier, dans le plus grand bidonville de France métropolitaine, que commence cette émission. Une ville où chaque terrain, chaque campement est depuis presque 10 ans suivi par une association référente. Les habitants sont en majorité des Roms de Roumanie. Certains sont sur place depuis plus d'une décennie. Sortir du bidonville, c'est un reportage de Léna Adami et Roman Brizard.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On est toujours en périphérie de la ville.
Ouais, on reste quand même à la périphérie de la ville, notamment Montpellier, parce qu'on est entre la ville de Montpellier et de Juvignac, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment qui est mitoyen d'une voie rapide, etc.
On est arrivé au bidonville Bonnier de la Mosson, c'est l'un des plus gros bidonvilles de Montpellier, l'un des plus anciens aussi. C'était plus de 10 ans qu'il est ici. Donc il a plu toute la nuit, le sol est encore bien boueux. Des baraques de fortune, des bâches sur les toits. Des murs consolidés par divers bouts de bois. Des maisons de fortune. Pas mal de voitures aussi garées sur les parkings. Certaines sont désossées. Des poules aussi, à l'air libre. Et puis des rires et des cris d'enfants qui s'amusent un peu partout. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a une centaine de familles qui habitent ici, de génération en génération. C'est une population assez stable. Et il s'agit uniquement de personnes de nationalité roumaine. Et puis la spécificité de ce terrain, c'est surtout que c'est un terrain des plus vétustes et des plus inondables. C'est d'ailleurs pourquoi les associations lutte pour en faire un des terrains prioritaires de la politique de résorption des bidonvilles de Montpellier. On va donc partir à la rencontre des familles de ce bidonville de Bonnier de la Mosson avec Slavka, qui est médiatrice scolaire ici dans ce bidonville.
Allez, on va y aller. On peut y aller. Ah, bonjour. Je sais pas si c'est mon garçon que j'adore. Tu vas bien? Ça va? Je suis contente de te voir.
C'est
Nasvalé. Alors, c'est la maman, Andrea.
Enchantée. Et il a trois enfants, trois filles. Chai, tu connais Slangwana?
Raïssa, Naomi, Emma.
Ça va, ma belle? Tu as pleuré?
Oui.
Tu connais tout le temps de Chai, tu es juste que tu as inscription, quand tu as septembre. Quand on a tout le temps pour Coco Cavella, la semaine prochaine, on peut aller finaliser l'inscription de Noami. Et à partir de septembre, toutes les deux avec sa sœur Raïssa, vous allez aller à l'école. Tu es contente d'y aller à l'école maintenant? Oui. Très bien.
Et qu'est-ce que vous leur disiez alors? Vous leur disiez qu'il fallait là les inscrire?
J'ai dit que la semaine prochaine, on peut aller, je peux accompagner la maman à l'école pour finaliser l'inscription de Noami. Elle est déjà admise. Et on a le certificat d'inscription, il faut juste finaliser l'inscription et à partir de septembre, elle va commencer.
Comment ça se passe du coup quand vous faites l'inscription? Vous vous donnez rendez-vous? Vous le faites pour eux? C'est comment?
L'inscription, je le fais toujours avec la famille, donc je demande des documents administratifs et par la suite, dès que j'ai le certificat d'inscription, je retourne auprès des parents, on prend un rendez-vous avec l'école. J'ai des fois des familles où... Je peux me heurter à des peurs des parents qui ne connaissent pas, ils sont assez éloignés de l'école, ils ne connaissent pas en fait comment ça fonctionne le système scolaire en France. Et donc mon rôle en tant que médiatrice scolaire, c'est de rassurer le parent, de l'expliquer, de les informer, de les sensibiliser et faire le lien avec l'établissement scolaire et des fois les accompagner dans l'école, pour par exemple l'adaptation pour les tout-petits, pour voir comment ça se passe. Plus tôt on scolarise un enfant, plus rapidement l'enfant il va s'adapter à l'école, plus vite il va apprendre.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit c'est très bien à l'école. Les familles sont de plus en plus volontaires,
ouais,
que leurs enfants puissent être instruites et aller à l'école.
Et pourquoi c'est important pour vous que vos enfants ils aillent à l'école en dehors de... Vous me dites, ça vous permet, vous, d'avoir du temps pour vous?
Oui, ça c'est la première chose. Mais la deuxième, de comprendre, de lire. Parce que si on ne comprend pas les choses, quand on donne les médicaments, quand on va au docteur, ça va être un problème après. Mais s'il va savoir lire, écrire, moi je n'ai pas lu, ça va marcher pour nous dans le futur.
Parce que vous auriez aimé avoir un travail?
Oui, je voulais travailler.
Qu'est-ce que vous aviez envie de faire?
Mais c'est 30 ans, la pâtisserie.
Ah oui?
Oui.
Vous en faites ici un peu?
Oui, à la maison.
Au revoir! Tu dis au revoir?
Au revoir!
On va se rapprocher de la caravane de Miguel et Sephora et on va rejoindre Rida Adjelabi. Rida, c'est le travailleur social qui les suit ici depuis des années.
Bonjour,
ça va bien?
Ouais, ça va bien et vous?
Alors Miguel et Sephora, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Miguel, je crois que j'étais enfant, il était là.
Ouais.
C'est ça Miguel, hein?
Oui.
Ouais. Je suis là depuis à l'âge de 6 ans, vous voyez? Je veux pas que mes enfants vivent la même chose. Moi, je ramène tous les enfants, je me réveille le matin, on ramène les enfants à l'école et tout ça, moi je respecte. Moi je dis, bon, c'est pour l'éducation de mes enfants. Déjà, ma fille, il parle le français, il apprend très vite, moi j'aime ça. Aussi qu'ils apprennent qu'on n'est pas pour toute la vie à côté d'eux, qu'ils apprennent tout seul un petit peu. Ou quand il va être adulte, il peut choisir ses chemins, quoi. Il peut choisir, il peut comprendre qu'il peut choisir qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie. Parfois, je vous dis la vérité, quand il pleut trop, il y a inondation, oh oui, on ne peut pas.
Et quand il y a l'eau, je peux vous dire qu'un demi-mètre. Ouais. L'eau, elle arrive jusqu'à la caravane, dedans il y a l'eau. On attend qu'il sèche le lendemain pour laisser sécher et tout ça.
Vous disiez, Sephora?
Le courant, ça coupe à chaque fois que la pluie et l'inondation, le courant, ça coupe. Et c'est difficile de chauffer de l'eau, de les faire le bain et tout ça, c'est difficile. Il faut les ramener à l'école, il faut être propre.
C'est Miguel et Sephora, ça fait des années qu'ils sont là. Il y a des demandes de logement qui ont été faites et tout. Mais on est dans une impasse, parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'hébergement, notamment pour la composition familiale. Vous êtes combien d'enfants déjà?
4 enfants.
Donc vous êtes 2 adultes, 4 enfants. Ça veut dire rester sur ce bidonville, qui en plus, je vous l'ai dit, il est vétuste, il est inondable, à chaque pluie, c'est l'enfer. Des rats qui mordent les mômes.
Les rats ici, bon Dieu, les rats ils font la taille d'un chat.
Un serpent l'autre jour. Ouais. Il y avait un serpent dans la canalisation là.
Mais même avec du travail, on a du mal à trouver un appartement. Alors là, ça fait 2 ans qu'on demande. Chaque fois, on appelle, on insiste. Pour de maman, on a plein la tête. Quoi. C'est abusé.
Il n'y a aucune solution. Ils m'ont donné à Béziers, mais moi, on ne connaît pas la ville. On est habitué ici. Nos enfants sont à l'école ici. On travaille. On a tous les papiers. On a des impôts. On a tout ce qu'il faut. Nous, on respecte la loi. Mais eux, ils vont rire. Quand je suis venue ici, j'ai vivé dans un appart et je sais comment ça se passe dans un appartement, je sais comment c'est d'avoir un logement. Parfois, j'imagine mes enfants jouer et tout ça, ouais. J'imagine avec moi dans la cuisine, quand on cuisine, quand on joue ensemble, qu'on fait tout ça, ouais. J'ai perdu ma espérance, quoi. J'ai perdu mon espoir.
Le contexte aujourd'hui se porte sur les Roms qui sont venus en France de l'Europe de l'Est pour des raisons économiques tout simplement. Ce qui était le cas avant dans les années 20 des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Et aujourd'hui, les descendants, on va dire, de ces gens-là sont à part entière français et françaises. Hein. C'est pour ça que je parlais d'inégalité dès le départ. Alors que ces enfants sont nés en France, c'est des citoyens français. Ils vont passer par l'école publique française, ils vont travailler pour la France, ils vont cotiser pour la France. Pour moi, c'est chaque enfant a sa place à l'école, peu importe ses origines. Et je sais que j'ai semé des graines et qu'un jour, cette personne, je me dis grâce à mon travail et grâce à ma passion, il pourra être instruit, il pourra être journaliste comme vous, devenir médecin. C'est pas juste apprendre à lire et écrire, hein, mais aussi avoir cette liberté de penser, de choisir.
L'école, pour les familles d'origine roumaine qui vivent à la périphérie de Montpellier, c'est le groupe scolaire André Malraux, à 8 km. Un établissement où les enfants des bidonvilles ne sont pas séparés des autres. Ils rejoignent les classes en fonction de leur niveau et sont aidés, c'est une première en France, par Juliane Gibassier, tutrice pédagogique pour élèves à besoins particuliers issus des bidonvilles. Elle accompagne 40 élèves au total et c'est avec Serena en CE1 qu'elle a rendez-vous ce matin-là. Léna Adami nous emmène avec elle au milieu des tables des écoliers.
Anniversaire se fête. Pas compris, hein. Regarde. Un joyeux anniversaire. Ça, c'est masculin, ok? Tu devais dire une. Je t'ai dit que c'est le mot joyeux que tu dois mettre au féminin. Donc, une joyeuse fête. Tu comprends?
Dans cette classe, il y a 5 élèves que j'accompagne. Ils sont répartis donc, un peu dans toute la classe. Il y en a 2 ici. 2 ici. Il y a Serena que j'aide un petit peu aussi de temps en temps. Donc Serena, le matin, quand je suis dans la classe, je l'aide à faire la dictée. Donc par exemple, on fait une dictée à trous. Donc en fait, elle fait la même dictée que les autres, mais avec une différenciation quand même pour que ce soit plus accessible pour elle. Et après, je l'aide pour les exercices d'orthographe. Voilà.
Quelle est la marque habituelle du pluriel ?
Là, t'as compris ce qu'elle t'a demandé, la maîtresse? Non.
Non.
Est-ce que tu aimes venir à l'école, Serena?
Oui.
Qu'est-ce qui te plaît à l'école?
Jouer et travailler.
Ça, c'est très bien. Donc là, c'est pareil, hein. T'as ajouté un X.
Oui.
J'ai une bouche, 2 oreilles, 2...
Yeux.
Mes yeux, c'est un mot qui est un peu difficile à écrire. Pour l'instant, on va le laisser de côté, puis on va voir pendant la correction. T'as oublié tes lunettes encore?
Oui.
Faut que tu les prennes, tes lunettes, pour l'école.
Des oeils ou des oeils? Des oeils? De quoi tu parles? Bon, du coup, je vais écrire ça.
Faut que tu recopies ça, mais au pluriel. Ce que tu m'as dit juste avant, des feux. Donc, faut que tu écrives juste les feux avec, à la fin.
Un X.
Exactement. Super, bah, je vais te laisser faire toute seule alors, moi je vais partir. Hein.
Oui, je vais faire ça.
Pourquoi est-ce que Serena ne connaît pas certains sons? Je sais pas, le CP, si elle l'a vraiment bien suivi, si elle était là tous les jours. Il y a peut-être eu des petits problèmes d'absentéisme. des problèmes liés à la langue, parce qu'elle est francophone, mais elle manque quand même de vocabulaire et elle a une syntaxe qui n'est pas parfaitement correcte. Et, voilà. Et puis peut-être des difficultés d'apprentissage, mais qui sont aussi difficiles à détecter. Il y a plein d'élèves qu'on accompagne, en fait, on a du mal à savoir ce qui relève de la langue, du retard scolaire et de l'absentéisme, et voilà. Et ce qui peut relever aussi peut-être de troubles 10, par exemple, qu'on a du mal à détecter, en fait, parce que c'est un peu imbriqué dans tous ces autres problèmes-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi?
J'aide maman, je fais le ménage, j'aime bien faire le ménage.
T'aimes bien faire le ménage?
Ouais.
Tu fais la cuisine aussi?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais
je
à manger?
Je fais à manger, parfois je fais des pâtes, je sais comment faire, parfois je fais des saucisses. Mais à l'école aussi c'est bien, tu vois.
T'aimes bien les deux en fait?
Oui, j'aime bien les deux.
Est-ce que tu sais si tes parents à toi ils sont allés à l'école?
Non, ils sont pas allés.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent que toi tu sois à l'école?
Bien.
Est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire plus tard?
Oui. Police et pompier, je crois.
T'aimerais être policière?
Oui, ça me va bien.
Pourquoi t'aimerais être policière?
Pour arrêter les gens s'ils font des trucs mal.
Ta sœur aussi, elle va à l'école?
Oui.
T'as combien de frères et sœurs?
Une sœur et un frère.
Tout le monde va à l'école chez toi?
Oui.
Et vous aimez bien? Vous vous encouragez tous les uns les autres à venir autant que possible?
Oui. Moi j'essaye. Hein.
Et pourquoi c'est important de venir souvent à l'école?
Parce que c'est important de lire, d'écrire, à connaître les lettres, avoir mon diplôme, faire le bac, le collège, la fac. Il y a plein de trucs à faire, du coup voilà.
Tes parents ils sont fiers de toi?
Oui.
Et toi t'es fière de toi?
Oui.
En tout cas, dis donc, t'as de trop belles notes, un trop beau cartable et tout. T'as tout ce qu'il faut pour devenir policier.
Les enfants des bidonvilles, quand ils sortent en récréation, ils ont pas tendance à jouer avec les camarades de classe, mais ils retrouvent en fait les autres enfants des bidonvilles d'autres classes et ils sont en général entre eux en récréation. En fait, Serena, c'est un peu l'électron libre. Elle est à la fois copine avec ses camarades de classe et en même temps, comme elle parle tzigane, en fait. Elle communique aussi avec les enfants des bidonvilles. En fait, elle est un petit peu copine avec tout le monde et elle est très intégrée en fait dans sa classe.
Vous êtes la seule en France à occuper ce poste au primaire. Il y a un seul autre poste au collège. Est-ce que selon vous, ça mériterait d'être développé dans d'autres académies? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ce serait l'idéal que ce poste fasse des petits un peu partout en France. Je pense que le gros défi, en fait, c'est de les rendre un peu légitimes au sein de l'école et de leur donner une place et une sécurité au sein de la classe et au sein de l'école. Voilà, cette semaine, j'ai accompagné par exemple un enfant en sortie canoë qui a une peur panique de l'eau, qui ne sait pas nager, donc qui était terrifié à l'idée d'aller au canoë, et puis au bout de 5 minutes, qui demandait en fait s'il pouvait y aller toutes les semaines. Pareil demain, j'accompagne aussi des enfants en sortie à Nîmes, on va à Nîmes toute la journée, on va prendre le train. C'est la première fois pour certains qui prennent le train, donc c'est l'aventure, on dirait qu'ils partent aux États-Unis ou au pôle Nord. Donc voilà, des moments aussi de première fois en fait pour les élèves. La première fois au zoo, la première fois dans l'eau, la première fois qu'on prend le train, première lecture, les premiers mots décodés, la première fois qu'on arrive à lire un mot et qu'on comprend ce qu'on lit et qu'on a les yeux qui s'écarquillent et qui s'illuminent, enfin, ça c'est magique pour les enfants. Donc je pense que les enfants pour la plupart aiment l'école Il y a cette question aussi, je pense, de rendre les enfants plus autonomes pour mieux les inclure, plus d'activités de groupe avec des élèves qui ne sont pas issus des bidonvilles. Cette année, j'ai organisé 2 cafés des parents. Donc pour chaque école, on a fait rentrer les parents dans l'école. Ils sont venus, on a montré le travail que les enfants font en classe. C'était vraiment pour visibiliser en fait ce que les enfants font à l'école, puisque pour les parents, c'est parfois très abstrait. Et en fait, tout ça combiné pourrait, dans l'idéal, permettre à terme que finalement, on n'ait pas besoin de créer 10 000 postes comme le mien. On a du pain sur la planche.
Je m'appelle Julie Rageau. Je suis enseignante en classe de CE1. Tous les matins, je demande à Juliane, est-ce que tu viens avec moi? Parce que quand elle n'est pas là, j'ai tendance, oui, presque à paniquer. Parce que je me dis, qu'est-ce que vont faire ces enfants-là, quoi? Je ne vais pas pouvoir les aider comme ils auraient besoin, à moins de laisser les autres en autonomie. Mais les CE1 sont encore des enfants assez jeunes. Du coup, c'est compliqué. Et bon, encore Serena, elle a un niveau de français qui est plutôt correct, très correct à l'oral. Mmh. Après, on a des enfants presque allophones pour qui, là, vraiment, ça demande une aide individualisée quasiment, que nous, enseignants, on ne peut pas apporter.
Une petite question, Serena, elle semble assez bien intégrée à sa classe de CE1. Est-ce que c'est le cas de tous les élèves issus des bidonvilles ?
Non. Non, non. Parce que Serena, elle est scolarisée depuis longtemps dans cette école. Donc, bon, elle a bien pris ses marques. Mais on a des élèves qui sont arrivés que cette année. Pour eux, c'est bien plus difficile de s'intégrer. Parce qu'aussi, ils parlent très peu français et parfois très peu tout court. Donc, du coup, pour les enfants non issus des bidonvilles, c'est pas évident d'aller vers eux, enfin, ça reste des enfants, quoi. Ils sont assez encore égoïstes, et du coup, être capable d'aller vers l'autre et de lui parler, alors que, bon, il comprend à peine ce qu'on lui dit, et du coup, ben, la réponse, elle va pas être non plus très, très compréhensible, c'est pas facile, quoi. Donc, non, tous les élèves sont pas très bien intégrés. Après, ils sont pas rejetés, ça c'est sûr, par contre.
Sur près de 4000 enfants issus des bidonvilles de France métropolitaine, 3500 sont désormais scolarisés. Ils n'étaient que 1400 il y a 3 ans. Mais si la politique d'inclusion des écoliers dans le système scolaire fonctionne, l'insertion professionnelle reste un échec. Les associations recensent près d'un millier de contrats professionnels signés chaque année par des habitants de bidonvilles, soit moins d'une personne sur 10 et très peu de femmes. C'est dans les locaux de l'antenne Montpellier-Rennes de l'association Unicité qui tente de faciliter l'accès à l'emploi des Roms qu'on retrouve Romane Brizard.
Interception sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
On peut se diriger vers la salle du bal.
On peut aller en bas.
On est à Unicité et aujourd'hui, il y a 4 filles issues des bidonvilles qui vont venir ici pour découvrir ce que c'est qu'un service civique. Et celle qui va mener ces entretiens, c'est Julie Lefebvre, elle est coordinatrice du programme.
Il y a 2 filles en fait qui devaient venir d'un autre terrain,
oui,
qui ne peuvent pas venir par rapport à des gardes en fait, des gardes d'enfants. Donc voilà, s'excuse pour elles.
Pas de soucis.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Moi c'est Julie.
Enchantée. Nicoletta.
Nicoletta, enchantée.
Et du coup, c'est Betty.
Enchantée, bienvenue.
Merci.
À l'entrée.
Nicoletta et Betty. À Unicité, on accompagne des jeunes en service civique. C'est des jeunes qui décident, à un moment donné, de donner de leur temps pour l'intérêt général. C'est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Ce qu'il n'y a pas ailleurs, c'est qu'on a des ateliers de langue. On a 10 jeunes qu'on appelle facilitateurs et 10 jeunes qui bien souvent parlent peu français, qui n'ont pas nécessairement été scolarisés en France. Après, tous ces jeunes se retrouvent et vont travailler autour du français. Ils vont aller faire des missions de solidarité. Vous pouvez aller faire des maraudes, vous pouvez aller faire de la distribution alimentaire, par exemple au Resto du Cœur. Vous pouvez aussi aller faire de l'animation auprès d'enfants. Ok. C'est un temps, le service civique, qui te permet de tester plein de choses. On ne demande pas de compétences. D'accord ? La seule chose, c'est avoir envie de faire. Ok ? Donc quand on s'engage, on y va, on va jusqu'au bout. Ça dure 8 mois.
D'accord ?
C'est 5 jours par semaine. Ok ?
Ça veut dire de lundi à vendredi. Non ?
Du lundi au vendredi, ouais. Et pour tout ça, du coup, le service civique, il est indemnisé. On ne parle pas de salaire, c'est une indemnité. Donc tous les mois, vous avez 619,93 €. Ok. Moi, j'ai fini de vous présenter le service civique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est bien, tout ça. Voilà. On apprend des choses. Voilà, pour moi, c'est bien.
Et pour moi aussi, c'est bien.
Pour toi aussi, c'est bien.
Il ne faut pas tous les jours prendre l'argent de parents. Voilà. Moi, j'ai honte, vraiment. J'ai honte de prendre l'argent de mes parents. Voilà, c'est pour ça. Comme ça, je suis sur mon argent à moi.
L'objectif, quand même, c'est que vous puissiez accéder à une formation ou à un emploi. Mais après, ça, il faut que vous ayez vous aussi envie.
Oui, non, on a envie, en fait.
Voilà. depuis la 5e, tu restes chez toi?
Non, j'ai arrêté l'école. J'ai pleuré. J'aime pas l'école, voilà. Donc, je déteste.
Est-ce que vous voulez qu'on reprenne rendez-vous pour qu'on se voit en individuel ? Pour qu'on puisse échanger sur votre parcours, sur ce que vous avez envie de faire, si vous avez des envies pour plus tard, sur ce que vous aimeriez faire en service civique. Vous voulez qu'on prenne rendez-vous ou pas ?
Bon, si tu veux, tu nous donnes rendez-vous, c'est bon. C'est bien pour moi. Tu
me donnes si je veux, c'est vous surtout, hein, si vous voulez.
Moi, je veux.
Toi, tu rendez-vous. Veux. Ok. Alors, on va noter ça. Quand même.
C'est bien le travail. On reste à la maison, on fait quoi à la maison ? Je fais de la ménage et c'est bon. Après, je me mets à dormir. Je fais rien d'autre à la maison. C'est bien que tu te bouges un peu.
Je m'appelle Rida Djellabi. Je suis travailleur social à la CIMAD depuis 2018, notamment sur une action que la CIMAD porte à Montpellier, l'action Bidonville. Pour les femmes, on est encore, j'allais dire, c'est double peine, quoi. C'est d'abord la discrimination liée au fait qu'elles sont identifiées comme personnes appartenant à la culture rome. En plus, c'est des femmes, quoi. Donc des difficultés en tant que femme, on connaît tous, hein, d'accès à l'emploi au niveau structurel, mais il y a aussi dans l'organisation de la vie sur les bidonvilles, etc., dans les organisations familiales, des ménages, etc. Bah, pour beaucoup de femmes, c'est très compliqué l'accès à l'emploi. Sortir de l'assignation à la gestion du ménage, à la gestion des enfants et tout, c'est très très compliqué, c'est quasiment impossible. C'est même désarmant parfois, quoi. Tantôt, on a des femmes qui ont intégré l'idée que ça allait quasiment être impossible et du coup, qui sont investies dans ces fonctions-là. Et je pense qu'ils ont peut-être pour certaines jamais songé à une altérité en termes de vie. Et pour celles, notamment les plus jeunes, qui aspireraient à autre chose, ben, on essaie de trouver des solutions. Mais là aussi, c'est compliqué parce que ben, d'abord, pour la plupart, la scolarité a été très chaotique, voire inexistante. Et quand elle a eu lieu, elle a été très douloureuse pour eux, pour elles et pour eux, les garçons aussi. Et une fois qu'on réussit quand même, bah, il faut réussir à faire en sorte qu'elle puisse s'inscrire sur quelque chose de pérenne, quoi, sans que la famille devienne une charge pour elle aussi, ou bah, vivre dans la précarité. Donc les peu de deniers qu'elles vont obtenir, peut-être, il va falloir les remettre en commun dans le ménage, dans la famille. Et puis parfois, il va falloir garder les mômes vers les petits frères et tout. Bah, les jeunes filles, elles sont assignées à ça. Donc c'est extrêmement compliqué pour les filles qu'on accompagne, quoi. On a pu voir des jeunes gars... faire d'autres expériences, sortir un peu du terrain. La plupart y arrivent à un moment donné. On a par contre vu très peu de femmes qu'on accompagne ne pas quasi avoir le même parcours systématiquement. Ou très jeune, il y a une union qui se met en place, des enfants qui arrivent, et on voit arriver le scénario qui s'écrit sur 30 ans presque, quoi. Et on se dit que ben, il faut l'enrayer, non pas par défiance avec leur organisation sociale, mais juste pour pouvoir donner à ces jeunes filles un choix. Un choix, une possibilité, une altérité. Et on se dit que c'est en créant des précédents pour pouvoir peut-être créer un effet de mimétisme où d'autres jeunes filles sur le terrain vont se dire « Ah, pourquoi pas ?» Voilà, juste créer un « pourquoi pas ?» Et en même temps, on est lucide aussi. On va devoir se bagarrer un peu aussi avec d'autres membres de la famille qui verront aussi là-dedans une déstabilisation de l'organisation, ce que je peux complètement comprendre. Il n'y a aucune des institutions qui permettent la socialisation classique qui a fonctionné jusque-là. Elle a été souvent brutale ou pas adaptée.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une politique qui est nationale de résorption des bidonvilles ?
Il y a une politique publique de résorption. Ouais, c'est vrai. Et pour l'exécuter, cette politique publique, il y a vraiment une commande qui nous est faite de travailler sur la levée des freins, logement, emploi, scolarité, etc. La difficulté qu'on rencontre, nous, c'est l'absence de débouchés. On se heurte à des vrais blocages de l'accès à l'emploi. L'extérieur, ils le connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles qui se font, ils vivent dans la société. Le bidonville, il n'est pas sur une colline paumée, non. Il est dans un quartier, etc. Mais je pense que la plupart aussi, ils ont fait eux-mêmes la propre expérience de la relation à l'extérieur, l'école, le travail, etc. Et ça ne s'est jamais très très bien passé, quoi. Il y a toujours eu un moment, des séquences, des événements, soit d'humiliation, soit de brutalité. J'en ai plein des exemples, moi, hein, pour le coup, juste en 5 ans de boulot, j'en ai vu. Et je me dis, ouais, c'est compliqué derrière de vouloir, après, créer des passerelles avec le reste du corps social, quoi. Parce qu'il est hostile. Enfin, en tout cas, eux, ils l'ont vécu dans leur chair, souvent, et ils ont peur pour leurs enfants. Et là, nous, ce qu'on propose, nous, c'est de dire, viens, on essaie quand même de sortir de ça, etc. Mais ça veut dire qu'aussi, que sur le terrain, dans les familles, dans les ménages, on remet un peu en question aussi une organisation qui était installée, qui les a sécurisés, en tout cas. Ils nous font confiance, un peu, mine de rien, mais on est des acteurs un petit peu d'acculturation en faisant ça. On fait le choix des libertés individuelles face aux dynamiques collectives. Et pour ces jeunes filles, on fait le choix donc de proposons-leur quelque chose de plus singulier qui leur appartienne et après on verra. On voit bien qu'il y a des volontés, des désirs d'ailleurs.
Pour se projeter, pour s'imaginer ailleurs, il faut un point de départ. Un ancrage géographique, un appartement. Et c'est le principal frein aujourd'hui. Le marché immobilier de Montpellier est complètement saturé. Les associations comme Area relogent les familles au compte-gouttes. C'est dans le quartier populaire de la Pergola qu'on retrouve Léna Adami avec Antoine Frisetti, travailleur social qui suit les familles issues des bidonvilles.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Où est-ce que ça coince justement l'accès au logement ?
L'accès au logement, ça coince sur d'abord les conditions administratives, c'est-à-dire que pour pouvoir se louer un appartement, il faut avoir parfois 3 fois le montant du loyer en termes de salaire. Et on accompagne des personnes qui ont des métiers qui sont peu payés, femmes de chambre, mais avec 600 euros de loyer, c'est complexe. Les autres adultes de la famille, eux, ils accèdent à des métiers qui sont extrêmement compliqués. Donc en fait, on a une famille qui a un revenu moyen entre 1000 et 1200 euros par mois. Et le parc locatif, il est très fermé quand on appelle, pas forcément même pas les bailleurs sociaux, mais les bailleurs privés ou les propriétaires d'appartements. Dès qu'on explique un peu la situation des gens, ça fait peur. Donc en fait, les gens nous ferment des portes en disant « non ». Désolé, l'appartement est déjà loué, ou alors non, je ne louerai pas à votre association, ou non, je ne louerai pas à ces gens. Il faut se battre avec les institutions, que ce soit la CAF, les écoles, les bailleurs sociaux, pour faire valoir le simple droit des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas à ce que les gens. On n'est pas militants, on ne demande pas à ce que les gens bénéficient de droits supplémentaires. On demande juste à ce que les gens puissent bénéficier des droits auxquels ils ont droit. Les familles sont en situation régulière depuis plusieurs années. On a des familles qu'on accompagne depuis 2016 et qui sont sur le territoire français depuis 3 ou 4 générations. Donc en fait, la question de la régularité, elle ne se pose même plus. Mais pourtant, on doit encore batailler pour faire accéder à leurs droits. Beaucoup de politiques de résorption des bidonvilles, en fait, c'est des politiques d'expulsion qui, en fait, aboutissent à reformer des bidonvilles quelques mètres plus loin. Si on n'a pas de solution à leur proposer, c'est pas une politique de résorption, c'est une politique d'expulsion. Et la réalité, c'est que, par exemple, sur Montpellier, après, on ne va pas non plus dire qu'il ne se passe rien. Il y a des réelles avancées et on a des familles qui s'intègrent durablement dans du logement.
Parmi ceux qui ont réussi à accéder à un logement, il y a Stefania Vasile, une femme arrivée de Roumanie en France il y a 2 ans, qui a emménagé dans son nouveau logement avec son mari et ses 2 enfants en mai 2024, après 1 an et demi d'attente. Et c'est son fils Raphaël qui nous emmène faire la visite de leur logement. Bonjour, Léna, enchantée.
Bonjour, Raphaël.
Raphaël, le fils de Stéphania ?
Ouais.
Ok. Donc toi, ça fait 2 mois que tu habites ici ?
Oui, à peu près, ouais.
Donc vous êtes 2 parents, 2 enfants.
Ouais.
On y va ?
D'accord.
Tu te sens comment ici ?
Je me sens bien.
Tu l'aimes bien, ton nouveau quartier ?
Oui.
Ok, donc là, on rentre dans la cour de l'immeuble. Très coloré, des murs bleu, vert, orange. C'est la porte bâtiment 1.
Bienvenue.
Merci.
Bonjour. Bonjour Stéphania. Bon, salut Dorina.
On enlève nos chaussures.
C'est pas grave.
Vas-y.
Merci de nous accueillir.
Salut.
Et il y a même un chien, il s'appelle comment ?
Ellie.
C'est Ellie ?
Oui, c'est Ellie.
Donc là, on est où ? Là, on arrive, on est
là,
dans le salon.
Là, on est dans le salon. Okay. Là, c'est la chambre de ma mère et mon père.
Allez, entre. C'est ma chambre.
Ça va ? Des grands placards pour ranger toutes les affaires.
Oui.
C'était important pour toi de déménager dans un endroit où tu pourrais avoir une cuisine qui marche, parce que quand on vit à l'hôtel, on n'a pas toujours la cuisine pour soi, on doit la partager avec des gens.
Oui.
Et les chambres, pareil, aujourd'hui, chaque enfant a sa chambre, alors qu'à l'hôtel, vous aviez combien de chambres en tout ?
2 chambres.
2 chambres pour tous les chambres, tout le monde ?
Oui.
Ça change tout. Alors, je ne suis plus avec ma sœur, je pourrais amener qui je veux.
Parfois, moi, j'ai dormi avec ma mère, parfois mon frère avec mon père.
Oui.
Et puis, peut-être, votre mari et vous, c'est bien d'être tous les deux dans votre chambre, Stéphania.
Ma intimité. Oui. C'est bien.
Stéphania, vous travaillez comme femme de ménage ?
Oui.
Dans un hôtel ?
Oui.
Et votre mari ?
Il ramène des colis et tout. Laver par terre et tout.
Donc il nettoie les bureaux et aussi il fait de la livraison de colis.
Voilà.
Oui.
Est-ce qu'on peut vous demander, sans indiscrétion, combien vous gagnez par mois avec votre mari ?
C'est 1300.
Et le logement, ici, le loyer, il est à combien ?
400 euros.
400 euros de loyer ?
Oui, 400 euros.
Stéphania et sa famille, donc là, ils ont un appartement, ils sont accompagnés par une association qui s'appelle l'AERS à Montpellier, qui gère l'appartement. Donc en fait, ils sous-louent l'appartement à l'association l'AERS. Stéphania et sa famille payent un loyer, mais par contre, ils ne payent pas le loyer directement au bailleur social, ils le payent à l'association, ce qui permet de s'assurer que s'il y a des pépins dans le versement des loyers, si comme ils sont dans une situation qui a pu être précaire, des fois les revenus étaient assez faibles, mais du coup, malgré ces revenus faibles, elle a pu accéder à un logement pour pouvoir stabiliser sa situation de travail, elle et son mari, pour ensuite pouvoir augmenter leurs revenus. Et on espère que dans 1 an, en fait, ils n'aient plus besoin d'accompagnement social, plus besoin d'éducateurs qui les aident parce qu'ils feront les choses tout seuls. Et l'idée, c'est que dans 1 an, le bail de location de l'appartement va glisser pour que Stéphania puisse être, comme n'importe quelle citoyenne française, avoir elle-même son propre bail à son nom et sa propre location. Elle sera complètement autonome.
Vous êtes très heureux, Stéphania, d'avoir déménagé dans cet appartement ?
L'appartement tranquille, pas de problème. Tu viens de la travailler, tu fais une douche, tu poses un peu, ça va. La place est un peu compliquée.
Le mot place, c'est le mot qui est utilisé en roumain et parfois en tzigane pour désigner un bidonville. Ça vient de l'allemand place, du coup c'est la place. Donc en fait, ce bidonville, les conditions dans lesquelles vivait étaient trop indignes, donc il fallait trouver des solutions. Sauf que des solutions pour 60 personnes en urgence, ça n'existe pas. Donc la ville de Montpellier, en concertation avec les associations, a réfléchi à une solution. C'est une ancienne maison de retraite qui a été mise à disposition des habitants de un bidonville dans le cadre d'une procédure de résorption du bidonville sur lequel Stéphania habitait avec ses enfants. Cet EHPAD, il était quand même assez insalubre, c'est pour ça qu'il n'y avait plus personne dedans. Quelques travaux ont été faits, mais les travaux ont été un peu des travaux de fortune. Et le but, ce n'était pas que cette solution reste définitive, mais que ce soit une solution transitoire pour que les gens puissent ensuite accéder à un appartement. Et la famille de Stéphania, elle a mis près de 2 ans à avoir cet appartement. Et pendant 2 ans, elle a changé d'hôtel en hôtel. On a accompagné toute la petite famille pendant 2 ans. Et en vrai, c'est une famille qui a fait un parcours très rapide. C'est très rare, en fait, cette situation où ça va aussi vite. Je suis très content de voir que le collège, ça se passe bien, la vie, ça se passe bien.
Ah ouais.
Et que t'es un adolescent qui fait des blagues.
Non. Raphaël, Dorina, Stéphania, on va vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous.
Bah, normal. Ramenez des copines si vous voulez. Non, je rigole.
Non, mais merci.
Allez,
merci beaucoup.
C'était super de, que vous nous ayez ouvert vos portes.
Patrick Vignal, ancien député de la 9e circonscription de l'Hérault. En Marche, Renaissance et maintenant EPR.
Alors, en 2018, la ville de Montpellier, elle comptait 11 bidonvilles. 6 ans plus tard, après le début de la politique de résorption, la ville de Montpellier, elle compte 11 bidonvilles, malgré les 4 résorptions qui ont été engagées. Comment expliquer ce chiffre ?
Écoutez, déjà, je pense qu'on a vraiment un problème en France, et ça ne concerne pas que les squats ou les bidonvilles, les gens qui ont besoin de logements. Nous devions construire en France 500 000 logements, on est à peine à 280 000. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une crise du logement, les taux d'intérêt, un manque de terrain, des normes toujours assaillantes qui ne permettent pas de construire rapidement. Donc le premier débat, c'est le logement.
C'est quoi ? C'est un manque de moyens, de volonté politique ?
Je vais vous dire, en fait, on n'a pas compris le problème du logement en France. Vous savez, il y a 60 000 demandes de logements sociaux. Il faut se dire les choses. Quand vous dites dans des communes que vous allez faire du logement social, les maires vous disent non, on ne veut pas les pauvres ou les gens d'une autre communauté. Je vais être très dur, il y a une lâcheté de l'État depuis 30 ans. Et si vous voulez, la dignité, c'est quoi ? Effectivement, c'est un toit, c'est une éducation et un travail. Et c'est vrai que Montpellier est un exemple parce qu'il y a eu un vrai travail avec la préfecture et les services des préfectures qui a compris qu'il fallait accompagner ces gamins, puisqu'il y en a qui sont même rentrés au lycée, au département. Les gamins ont suivi un cursus scolaire. Au lieu de certains les voir au feu rouge à mendier avec leurs parents, ces gamins ont eu cette éducation. Et ça s'est bien goupillé parce que les directrices d'école aux alentours de la Rose ont joué le jeu, les enseignants, les parents d'élèves, vous savez, quand on donne le pouvoir en fait aux gens, quand on leur redonne la parole, ça fonctionne, en associant les riverains. Parce que j'ai des exemples, moi. J'ai eu souvenir à Montpellier, dans un quartier, j'avais relogé 4 familles roms dans un immeuble, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, moi, dans le bidonville à côté du Zénith, les roms qui vivaient du cuivre, récupéraient du cuivre, ils le brûlaient dans le bidonville du Zénith, il y avait des WC, et suivant la religion ou suivant l'ethnie que vous étiez, ils ne pouvaient pas partager les WC. Donc il y en a qui allaient dans les vignes faire leurs besoins. Donc j'ai le voisin qui me disait tous les jours, j'en peux plus, ça ne me dérange pas, mais moi je veux qu'ils respectent aussi mon territoire et ma vigne. Donc vous voyez, il faut du temps en fait. Et c'est vrai quand même que c'est un véritable succès, puisqu'à Montpellier, on a quand même relogé 100 personnes. 2 qui sont allés en prison, parce que souvent on explique les Roms, c'est des chapardeurs, 2 sur 200, et des gamins qui sont au lycée. Ma petite Susanna, master 2 de pharmacie. Ça veut dire en fait que il faut partager les choses.
L'objectif national de zéro bidonville en 2035, il est possible, il est atteignable ?
Oui, il sera atteignable si on est capable, effectivement, dans les cœurs de ville où il y a déjà les commerces de proximité, les écoles, les services publics, de pouvoir monter sur la ville. Il faut construire encore plus. Un logement, c'est 2 emplois. Ça peut se faire quand les gens veulent travailler ensemble. Je vais vous faire une confidence. J'ai écrit au président de la République pour dire, Monsieur le Président, arrêter, décentraliser le couple maire-préfet, c'est de quoi il part sur le territoire. Et je prends l'exemple de Montpellier encore. Bien sûr qu'il faut garder des terres arables autour de Montpellier. Bien sûr que c'est agréable quand vous levez à Moguio le matin et que vous voyez des taureaux et des chevaux de Camargue. Mais il faut aussi préparer l'avenir. Et une ville qui ne construit pas, une ville qui ne s'agrandit pas, c'est une ville qui meurt. Et là, ça permettra de régler les problèmes de logement, donc l'éducation, et en suivant le professionnel.
Sortir du bidonville, un reportage de Léna Adami et Romane Brizard. Réalisation Gaëtan Colli, attaché de production Martine Messonnier, mixage Éric Villenfin. Pour réécouter cette émission, abonnez-vous à Interception sur l'application Radio France.